nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a deux manières de considérer la scène que l'évangile de Saint Jean relate, scène fameuse entre toutes, dialogue fameux, l'un des plus fameux de l'histoire sans doute, dialogue de sourds, c'est certain, mais dialogue fructueux quand même. Il y a donc deux manières de l'envisager, deux regards qu'on peut poser sur ce dialogue entre Pilate, le préfet, il n'était pas procurateur à vrai dire, mais préfet de Judée, et Jésus de Nazareth, qui est en même temps le Fils de Dieu. Soit on regarde les choses avec, j'allais dire par le petit bout de la lorgnette, les yeux de Pilate. Soit on regarde les choses avec les yeux divino-humains de notre Seigneur, et alors toute la perspective de la réalité apparaît d'autant mieux. Ce Pilate-là, voyant arriver au prétoire Jésus, dénoncé comme un blasphémateur, mais ça, notre bon Pilate s'en moque, cette affaire de religion, et ce militaire païen n'a que faire de la religion juive. Ce qui l'intrigue davantage, ce qui le chatouille et qui l'énerve, c'est évidemment la revendication au titre de roi d'Israël qu'il entend imputer à Jésus. Et ce bon Pilate s'attend à tout, sauf à voir un homme très simple, certes au port noble, puisqu'on imagine que Jésus était rayonnant d'une humanité parfaite, c'était pas n'importe qui, et on se rendait compte qu'on n'avait pas affaire au commun des mortels devant lui, mais tout de même, c'est un fils de charpentier qui, pour roi qu'il se revendique, n'en a pas l'allure. Alors ce Pilate-là jette sur la scène le regard sceptique et goguenard du militaire habitué à la pourpre impériale et au défilé militaire de l'Empire. Il voit arriver ce Jésus et sa revendication royale, et il se dit que la scène vraiment est surréaliste. Le Seigneur Jésus, lui, a un tout autre regard sur cette scène. Il a un regard surnaturel. L'un et l'autre n'ont rien à voir. Surréaliste, c'est effectivement ce qui apparaît aux yeux de ce Pilate. Qui est-il, cette espèce de doux rêveur, ce pseudo-sécessionniste de Galilée, qui est suivi par quelques pêcheurs, quelques bonnes femmes, et puis, dit-on, la foule du commun des Juifs, dont Pilate n'a que faire, et il se dit que vraiment, pour un roi, drôle de roi. Et y a-t-il vraiment à trembler devant ce bonhomme-là, comme semblent y inviter les princes des Juifs ? Jésus regarde les choses, je vous l'ai dit, d'une manière surnaturelle. La revendication de sa principauté, la revendication de sa royauté, est à la fois la plus large qui soit et en même temps la plus discrète qui soit. Le Seigneur Jésus est, en tant qu'il est le Fils de Dieu éternel, roi par naissance éternelle, j'allais dire. Et il va acquérir, par le service qu'il est venu accomplir, par le sacrifice de la croix, acquérir un nouveau droit à régner dans son humanité, celui-ci. Le Seigneur, donc, est roi en plénitude, et parce qu'il est Dieu, et parce qu'il est homme parfait. Cette royauté qu'il revendique, c'est vrai, n'a pas l'apparence habituelle que l'on reconnaît au pouvoir temporel. Il est là pour servir, il se sacrifie, il se tait devant l'autorité temporelle qui veut l'exécuter. Vous savez que dans un autre dialogue fameux de l'Évangile, devant Hérode cette fois-ci, on nous dit que Jésus se taisait. Et Jésus autem tat Shabbat. Jésus se tait. Il est le roi par excellence, il a un droit de régner de toute éternité, il a un autre droit à régner acquis par le service douloureux et généreux qu'il a accompli pendant 3 ans et qui culminera dans le sacrifice de la croix, mais il se tait devant l'autorité temporelle qui veut l'exécuter. Je voudrais bien vous faire comprendre la royauté du Seigneur Jésus. C'est un mystère très profond qu'il nous faut méditer sans cesse et que nous n'arrivons pas vraiment à sonder. Nous revendiquons parfois, pour le Seigneur Jésus, une royauté trop temporelle. Nous rêvons du Seigneur Jésus descendant du ciel et rétablissant chaque chose à sa place, mettant à terre les ennemis du christianisme, exaltant ceux qui, au contraire, auront su défendre les lois de l'Évangile. Et nous sombrons dans une vision par trop humaine, beaucoup trop horizontale des choses. Le Seigneur Jésus est le roi par excellence, mais il faut accepter que cette royauté, qui est effective dès maintenant, dès qu'il est sorti du tombeau, Jésus est roi, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, il faut accepter que cette royauté, en même temps, ne s'instaure qu'au fil des années, lentement, comme au compte-gouttes, et par quels moyens ? Par le moyen de notre coopération. Il est assez étonnant et en même temps, je trouve profondément bouleversant, que le Seigneur Jésus, qui règne déjà, et qui, à la fin des temps, fera éclater à la face de tous cette royauté universelle, que le Seigneur Jésus ait voulu avoir besoin de nous. Nous sommes les artisans de son royaume. Il nous appartient d'établir jour après jour le règne de Jésus-Christ. Par quoi pouvons-nous établir ce règne de Jésus-Christ ? Parce que nous y aspirons tous. Nous pouvons établir ce règne de Jésus-Christ d'abord en le laissant régner sur notre cœur, en le laissant régner sur les moindres parcelles de notre être. Sondez-vous chacun, et je me sonde avec vous, quelle est dans votre vie la part que vous laissez au règne de Jésus-Christ ? N'y a-t-il pas quelques méandres de votre existence que vous aimeriez garder par-devers vous, dont vous croyez pouvoir garder jalousement les clés, que le Seigneur ne s'en empare jamais, et qui est une sorte de jardin secret un peu malsain qui échapperait au royaume de Jésus-Christ, à la loi de l'Évangile, qui échapperait au signe de la croix ? Mes chers amis, nous voulons que Jésus règne. Mais ce règne-là, je vous le redis, ne débutera concrètement, il est ce règne-là, mais pour qu'on puisse le voir apparaître davantage, il faut premièrement que nous acceptions que Jésus règne sur notre cœur et sur notre existence. Il ne sert à rien de revendiquer la royauté sociale de Jésus-Christ, qu'enfin les lois de la République lui soient conformes. Il faut déjà commencer par une discipline personnelle. Que tout dans notre existence soit soumis au règne de Jésus-Christ. Et cela commence, c'est un détail, mais tout de même, cela commence le jour du Christ-Roi, par exemple, par l'acceptation d'arriver à l'heure pour pouvoir honorer le roi des rois. C'est une chose bête, me direz-vous, mais voyez-vous, je crois que tout commence comme cela. Par un menu service, on permet à Jésus de régner davantage. Ce règne de Jésus-Christ, il faut, mes chers amis, que nous acceptions de le proclamer autour de nous. Il n'est pas toujours facile de pouvoir témoigner dans des sphères, dans des entreprises, dans des familles où l'on se méfie de Jésus-Christ. Il faut, après avoir essayé de le faire régner sur notre cœur, essayer de le faire régner dans nos conversations. Permettre que Jésus-Christ ait droit de cité dans nos conversations. Il est tout de même assez étonnant qu'il ne soit pas possible de parler de Jésus-Christ dans certaines instances, au motif d'une laïcité mal comprise. D'autres États qui observent eux aussi la laïcité, je pense par exemple aux États-Unis d'Amérique, je pense à l'Angleterre, notre voisine, sont des institutions dans lesquelles il est permis de parler du Créateur, il est permis de parler du Christ. Il serait même assez malvenu de n'avoir foi en rien. Est-il normal que nous, catholiques, ayons laissé le pavé à d'autres qui confisquent la discussion et qui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ ? Un deuxième moyen donc de faire advenir le règne de Jésus-Christ, nos conversations, notre témoignage explicite. Nous avons à dire que Jésus est roi, mais à bien expliquer de quelle royauté il s'agit. Une royauté de service. Servir, c'est régner, bien sûr, pour Jésus, plus que pour tout autre. Jésus n'a aucune intention de réduire à rien la sphère politique, l'autorité des princes. Jésus n'est pas venu proclamer la République, il n'est pas venu proclamer la royauté, il n'est pas venu proclamer l'Empire. Peu lui importe. Peu lui chaud. Ce que Jésus veut, c'est que les princes lui laissent la place, lui permettent de régner tout en comprenant bien qu'il n'enlèvera rien de leur autorité temporelle. Je pense que je me fais comprendre et que vous allez retenir pour cette semaine et peut-être la semaine d'après et peut-être cette année, ces deux moyens de faire régner Jésus-Christ. Vous voyez que cette homilie est très simple. Deux moyens de faire régner Jésus-Christ et dans mon cœur, sur mon cœur et dans tous les moindres méandres de mon existence, je veux que tout cela soit pénétré des lois de l'Évangile et ensuite dans mes conversations. Si déjà nous observons ces deux premiers moyens de faire régner Jésus-Christ, croyez-moi, le règne social de notre Seigneur avancera beaucoup plus rapidement qu'on ne le croit. Nous confions cela évidemment à la Vierge Marie ? Y a-t-il être humain, y a-t-il personne qui ait davantage laissé régner Jésus en elle ? Elle est totalement irradiée du règne de Jésus-Christ. Et y a-t-il personne qui ait témoigné plus que Marie ? Remarquez que, comme je vous le dis souvent, mais comme vous le savez par ailleurs, on ne relate pas beaucoup de paroles de la Vierge Marie dans l'Évangile. Et pour autant, elle est le témoin par excellence. Les pères de l'Église la représentent comme la lune qui reflète parfaitement la lumière du soleil, son fils. Pourtant, pas un mot. Mais croyez-moi, le peu de mots qu'elle a montre bien toute la place que Jésus doit avoir et qu'il règne, à commencer par le miracle de Cana, faites tout ce qu'il vous dira. Petite phrase de Marie, qui est le témoignage permettant de comprendre que Jésus-Christ est la pierre angulaire sans laquelle rien ne se fait. Alors, vraiment, prenons notre chapelet, puisque nous sommes toujours dans le mois du rosaire, pour une semaine encore. Prenons notre chapelet, reprenons-le, si nous l'avons laissé un peu trop au fond de notre poche, s'user au fond de notre poche, bêtement, usons-le en l'égrenant plutôt, ce chapelet, et offrons, si vous le voulez bien, cette semaine, offrons au Seigneur pour nos souverains, quels qu'ils soient, encore une fois, que nous les aimions ou pas, saint Paul nous y invite, vous le savez, dans ses épîtres, exhorte à cela, à prier pour les princes. Si nous ne prions pas pour les princes, ne nous étonnons pas qu'ils soient si dévoyés hors de la route tracée par le Seigneur Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.